Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On a déjà entendu leurs noms sans forcément réussir à les situer, à associer à leur patronyme une date, un lieu, un fait marquant. Qui était Claude Gallien? Dans quelle contrée Avicenne a-t-il vécu et dispensé son savoir? De quelle spécialité Guy de Chauliac rédigea-t-il les principes? Et pourquoi Édouard Jenner est-il passé à la postérité? Toutes ces questions trouvent leur solution, leur réponse dans un ouvrage illustré, une bande dessinée que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Des images pour comprendre, des planches pour visualiser, des dialogues aussi pour nous familiariser avec cette histoire que nous allons découvrir ensemble au cours de cette émission. Une incroyable histoire de la médecine qui, d'anecdote en découverte, retrace cette épopée du savoir scientifique mise au service de la santé, avec ses traits de génie et ses remèdes improbables, ses croyances erronées et encore ses incroyables hasards qui ouvrent les yeux aux savants. Une histoire de la médecine qui nous montre que nos pratiques actuelles sont héritées de ce passé parfois étonnant. L'incroyable histoire de la médecine, publiée aux éditions Les Arènes BD, illustration signée Philippe Berkovici, un livre que vous avez scénarisé, professeur Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes. Histoire de la médecine avec tout un tas de jalons, de faits marquants, ces pratiques en vogue qui n'ont pas disparu aujourd'hui, peut-être pour d'autres applications. C'est ce que nous verrons avec les saignées, avec le professeur Frédéric Galactéro, sématologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne. Être soigné aussi dans de bonnes conditions d'hygiène, l'asepsie, conquête pasteurienne, illustration au quotidien avec Delphine Soubès, infirmière dans votre service de l'hôpital européen Georges Pompidou. Pompidou, professeur Fabiani, être opéré, être soigné sans souffrir quand c'est possible. Un long chemin parcouru depuis l'inhalation de chanvre ou l'absorption d'alcool des temps anciens. Nous retrouverons le docteur Jean-Jacques Charbonnier, docteur en médecine, spécialiste en anesthésie et en réanimation à Toulouse. Histoire de la médecine qui se décline différemment en fonction des régions du monde. Nous retrouverons au Sénégal le professeur Abdoul Kane, professeur de cardiologie à l'université de Dakar, directeur de la polyclinique de l'université de Dakar, auteur du livre « Si l'école africaine de médecine m'était comptée ».
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean-Noël Fabiani, co-auteur de cette incroyable histoire de la médecine en BD. Alors comment le chef de service cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou se met-il dans les traces d'un René Goscinny, d'un Riyad Satouf ou d'une Marguerite Aubouet, auteur de Hayat Diopougon par exemple?
C'est vrai que lorsque j'ai discuté avec mon éditeur sur rédiger une histoire de la médecine, il m'a dit un livre de 500 pages avec des premièrement, deuxièmement, troisièmement, on va en vendre quelques centaines. Je vous conseille plutôt d'essayer la bande dessinée. Et donc il m'a dit, ouais, je vais vous mettre en contact avec Monsieur Berkovici. Et en effet, au bout d'un certain temps, parce que ça m'a demandé quand même beaucoup de travail, j'ai pu rédiger en effet un scénario pour une bande dessinée.
Avec une diffusion beaucoup plus large, hein, c'est déjà acquis?
Oh, c'est sûr que la diffusion est incontestablement supérieure à un livre un peu académique, soyons clairs.
Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec l'illustrateur ?
Alors, bien sûr, l'illustrateur, comme tout illustrateur de bande dessinée, habite en Belgique. Et moi, j'habite à Paris.
Faut pas généraliser, on en a quand même quelques-uns en France, et bien ailleurs, au Québec ou ailleurs.
Je plaisante. Mais donc, il était à Bruxelles, et moi à Paris, et par Internet, on a communiquer très très facilement. Il faut dire que Philippe Berkovici est un dessinateur extrêmement doué et rapide et il me renvoyait deux jours après la planche que je lui avais demandée la veille. Donc c'est tout à fait remarquable.
Sujet sérieux, professeur Jean-Noël Fabiani, pourtant énormément de sourires hein, dans ses planches. Justement, cette cohabitation de l'humour et de la science, comment ça s'est passé? C'était dès le départ votre choix?
Oui, parce que sans être auteur de bande dessinée, j'ai été amateur de bande dessinée. À partir du moment où on est dans un genre, il faut respecter le genre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des phrases courtes, parfois caricaturales, et c'est bien des choix qui m'ont été parfois difficiles. Et puis il faut être un peu drôle et raconter des histoires. Parce que en bande dessinée, il faut raconter des histoires. Et il faut que les bulles, si possible, soient un peu drôles ou au moins qu'elles soient distrayantes.
Alors, est-ce que vous avez quand même rencontré des grognons, professeur Fabiani, en disant tout cela n'est pas bien sérieux ?
Oh, il y a bien entendu. Il y a des amateurs de bande dessinée qui m'ont écrit en disant « Votre bande dessinée, elle est beaucoup trop sérieuse. »
En tout cas, c'est touffu. Il y a beaucoup de contenu. Alors justement, on va s'y plonger dans cette histoire de la médecine. Ces temps forts, ces héros, on peut parler véritablement de héros. Et peut-être que le grand public n'est pas familiarisé avec tous ces noms. Et pourtant, derrière ces figures, il y a des choses absolument étonnante.
Il y a des personnages qui sont des personnages magnifiques, des héros, comme vous
et
le dites.
Et même en couleur. Hein.
Et puis d'autres qui sont véritablement des personnages de roman. Avicenne, par exemple, est un personnage de roman. Sa vie est un roman. D'autres sont des gens d'un dévouement exceptionnel. Émile Roux, quand il travaille sur la rage, avec son pistolet chargé à côté de lui, au cas où un chien le mordrait, c'est un héros de la science.
Avec aussi certains de ces personnages, dans les temps reculés, avec une érudition absolument époustouflante.
On parlait d'Avicenne, c'est l'exemple typique. On l'appelait déjà de son vivant, Cheikh el Hayth, c'est-à-dire le prince des savants. Il sait tout. Depuis l'âge de 6 ans, il sait le Coran par cœur. Il avait un livre d'Hippocrate, un vrai livre d'Hippocrate qu'il savait bien entendu par cœur. Et un jour, son secrétaire vient le voir en disant « Maître, maître, on nous a volé votre livre !» Et il lui répond « El Josani, aucun problème, je te le redicterai demain. » Autrement dit, il est vraisemblable que l'on connaisse ce livre d'Hippocrate par la mémoire d'Avicenne.
Alors, on va mettre en lumière cet héritage, professeur Jean-Noël Fabiani. Les origines, hein, on remonte jusqu'au début du début, la préhistoire. On sait déjà réduire les fractures et on utilise déjà les herbes.
Alors ça, c'est sûr qu'on a retrouvé dans des clans néandertaliens, à côté en général de squelettes de femmes, des poches, des outres, dans lesquelles il y avait des petits godets, dans lesquels on trouve encore les graines, qui étaient des graines de jusquiam, de tilleul, et tout ça, de plantes qui manifestement étaient médicinales. Autrement dit, il y avait déjà dans ces clans la femme médecine, qui vraisemblablement donnait des tisanes, donnait des potions, pour soulager les gens du clan.
Et la volonté de soigner.
On pense que la volonté de soigner est contemporaine à peu près dans l'histoire de l'homme préhistorique, au moment où on enterre les gens. À partir de ce moment-là, il y a eu l'équivalent de médecin. Alors, médecin sorcier, la magie a une place importante, évidemment.
Et d'ailleurs, très longtemps, ce pouvoir de soigner, professeur Jean-Noël Fabiani, il va être réservé aux religieux. Ça va aller assez tard dans l'histoire.
C'est un pouvoir, savoir guérir ou soigner. Donc très souvent, ce sont des prêtres qui prennent les choses en main. Il n'y a qu'un cas dans l'histoire d'une médecine qui n'est pas le fait des prêtres, c'est la médecine chinoise. La médecine chinoise est une médecine de philosophes. Et comme par hasard, de toutes ces médecines, c'est la seule que l'on pratique encore aujourd'hui. Et c'est la seule que de Chine qui a effleuré jusqu'à nos pays, puisque l'acupuncture est pratiquée aujourd'hui dans nos propres pays, alors que c'est une science que l'on connaît depuis l'Antiquité.
Avec notamment une médecine chinoise très présente sur le continent africain.
Évidemment.
Alors, histoire de la médecine, ces grands noms, on peut dire, est-ce que ce n'est pas lui le médecin le plus célèbre de l'histoire ? Hippocrate, c'est donc bien un homme qui a donné son nom à ce fameux serment que prêtent les médecins.
C'est un homme qui fait partie, dont les parents, les grands-parents font partie d'une famille en fait de magiciens grecs qu'on appelait les Asclépiades. Ils descendaient soi-disant du dieu Asclépios et ils avaient des temples où ils prenaient les malades, ils les faisaient dormir et le matin ils interprétaient leurs rêves. Et en fonction des rêves, ils donnaient des médicaments ou des potions magiques et les gens devaient être guéris. Et le premier, Hippocrate, se dit « Non, la maladie n'est pas le fait des dieux, c'est quelque chose que l'on peut décrire. » Et il demande à ses étudiants ou à ses assistants de remplir des tablettes dans lesquelles on marquera tous les signes d'une maladie. Et il essaye de classer les choses. C'est pour ça que sa démarche, au départ, est une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il classe les différentes maladies. Alors, le corpus hippocratique, soyons clairs, hein, c'est 60 volumes, c'est pas rien, c'est énorme. Alors, il a sans doute pas tout écrit, mais ses assistants ont participé à la rédaction de ce corpus, mais c'est quand même quelque chose de très important. Mais comme on le disait tout à l'heure, Hippocrate est surtout connu par son œuvre éthique. Alors pourquoi est-ce qu'il compose une œuvre éthique ? On peut se poser des questions. Eh bien, je pense que c'est Socrate qui a été un élément déterminant. Parce qu'au moment où Socrate meurt, vous savez, Socrate, il boit la ciguë parce qu'il est condamné pour avoir été un mauvais Athénien et pour avoir apporté à la jeunesse des tas de problèmes. Et donc, il boit la ciguë devant tous ses assistants et devant tous ses élèves, ses disciples. Et la dernière phrase qu'il dit, c'est « Nous devons un coq à Asclépios, payez-le, ne l'oubliez pas. » Et il meurt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le coq, c'était l'animal qu'on sacrifiait au dieu Asclépios, au dieu de la médecine. Payez-le, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, obligatoirement, on s'est tourné vers Hippocrate pour avoir une explication. Pourquoi Socrate nous a-t-il dit cela ? Et Hippocrate ne comprend pas plus que les autres. Il se pose des questions. Est-ce qu'il ne veut pas nous dire par là que les médecins, nous devons avoir un rôle dans la société qui va nous imposer une conduite parfaite ?
C'est une interprétation qui va loin.
Qui va loin, mais qui est quand même très vraisemblable.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Hippocrate est l'inventeur de la médecine clinique ? Est-ce qu'à l'époque, on parle de symptômes ?
On parle de symptômes, on en rajoute même beaucoup. Il y a encore des signes hippocratiques, la succussion hippocratique, l'hippocratisme digital, c'est les gens qui ont des doigts en baguette de tambour et qui en fait souffrent sur le plan respiratoire. Eh bien, c'est Hippocrate qui a décrit cela. Il a décrit énormément de choses. Mais, bien entendu, de son œuvre médicale à proprement parler, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, soyons clairs. Ce qu'il reste, et qui est très vilasse en quelque sorte, c'est son œuvre éthique, sa déontologie.
Alors, je suis obligée de cavaler un petit peu, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Cavalons avec les Égyptiens, sur un char peut-être, moins 1500 des traités médicaux sur des papyrus, un inventaire de pas moins de 700 remèdes différents, hein, j'ai bien lu. Les grandes figures du Moyen-Orient, on a déjà parlé d'Avicenne, Rhazès, extraordinaire, médecine préventive.
Il faut dire que ces médecins perses et arabes, eh bien, ils vont être des formidables passeurs de connaissances, parce que, alors que l'Occident chrétien à l'époque est dans une situation très difficile, eh bien, ils vont prendre tous ces textes anciens, ils vont les traduire en arabe, et ils vont appliquer les grands principes d'Hippocrate et de Galien, et ils vont utiliser toute cette science, et ils vont nous la communiquer à la Renaissance seulement, parce que d'autres traducteurs, place des traducteurs quand même importante, vont retraduire ces textes arabes en latin.
Alors, on est à l'an 1000, Cordoue, Averroès, Maïmonide, et puis, quand même, une grande partie de ces savoirs qui partent en fumée, ces savoirs, 50 ans avant Jésus-Christ, l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie.
Alors oui, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est un drame. Il y a 700 000 ouvrages dans cette bibliothèque, des ouvrages qui sont parfois uniques. Et César, qui arrive en Égypte, eh bien, brûle cette bibliothèque. Et bien entendu, il y a eu une perte de connaissances absolument considérable qui s'est produite à ce moment-là.
Un nom que vous avez cité rapidement, mais on va s'y arrêter un petit peu. Galien, la théorie des humeurs, de bonnes choses et pas mal de n'importe quoi aussi.
Alors Galien, en fait, il ne fait que reprendre, là encore, Hippocrate. C'est pour ça qu'on dit que Hippocrate, c'est quand même le père de tous, parce qu'ils connaissent pas l'intérieur du corps, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut trouver une solution, c'est des Grecs, il faut qu'ils trouvent des solutions à tout. Hein. Il faut quand même expliquer les maladies. Donc on invente. Alors c'est pas compliqué, il y a quatre humeurs. Il y a le sang, il y a la bile, il y a la lymphe. Bon, puis il y en a une qu'on connaît pas, elle s'appelle la bile noire. Bile noire, mélanocolée, ça va donner mélancolie. Et chacune, c'est un type humain. Le sang, c'est le sanguin. On dit encore que quelqu'un
colérique,
est un sanguin.
Ouais.
La bile, c'est le bilieux. On sait ce que c'est qu'un bilieux tout de même. Le lymphatique, j'ai pas besoin de vous dire quel personnage. Et le mélancolique. Et d'ailleurs, Molière, quand il vous fait écrit le misanthrope, il l'appelle l'atrabiliaire amoureux. Le mélancolique amoureux. Donc, ces quatre humeurs, elles sont normalement en bon équilibre. La maladie, c'est quand elles sont en déséquilibre. Donc, il faut les chasser. Comment peut-on les chasser? Eh bien, en faisant des saignées. Parce qu'en faisant la saignée, on enlève le mauvais sang. Ou bien en éliminant les matières fécales, qui obligatoirement sont mauvaises, et donc on va faire des purges. Et donc vous avez les deux grandes mamelles de la médecine jusqu'au XVIIe siècle, purgarer et saignarer. Saignarer, être purgarer. On fait des saignées et on fait des purges.
Eh bien vous me rendez un fier service, hein. Professeur Fabiani, tout de suite, méthodes thérapeutiques qui n'ont pas fait leurs preuves, purge ou lavement, traitement moqué dans Le malade imaginaire de Molière.
Je viens apprendre là-bas, à la porte de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit.
Mais monsieur, ce n'est pas...
Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin.
Cela est épouvantable.
Un clistère. que j'avais pris plaisir à composer moi-même.
Mais ce n'est pas moi.
Ils ont été informés dans toutes les règles de l'art.
Il attend.
Et qui ne veut faire dans les entrailles un effet merveilleux.
Mon frère...
Le renvoyer avec mépris.
C'est lui.
C'est une action exorbitante.
Cela est vrai.
Un attentat énorme contre la médecine.
Il est cause...
Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez puni.
Vous avez raison.
Je vous déclare que je romps commerce avec vous.
C'est mon frère.
Je ne veux plus d'alliance avec vous.
Vous ferez bien.
Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage.
C'est mon frère qui a fait tout le mal.
Méprisez-moi, Clistère.
Faites-le venir, je m'en vais le prendre.
Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu.
Il ne le mérite pas.
J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs.
Oh, mon frère.
Je ne voulais qu'une douzaine de médecine pour en vider le fond du sac.
Il est indigne de vos soins.
Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains...
Ah, ce n'est pas ma faute.
Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin...
Cela crie en sang.
Puisque vous vous êtes déclaré rebelle aux remèdes que je vous ordonnais...
Eh, pas du tout.
J'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à la crotté de votre bile,
et à la féculence de vos humeurs.
C'est fort bien fait.
Le malade imaginaire, acte 3, scène 5, mise en scène de Jacques Charon, qui interprète Argan, cet hypochondriaque prêt à céder au clistère de Monsieur Purgon. Professeur Jean-Noël Fabiani, on vous retrouve. Incroyable histoire de la médecine. Ces clistères, ils sont largement préconisés à cette époque, hein, 17e, 18e siècle.
Le roi Soleil aura eu jusqu'à 20 clistères par jour. Et Molière, comme toujours, met le doigt sur toutes les choses importantes. Son Diafoirus, il entre dans le conflit de la bataille de la circulation sanguine. Et manifestement, Diafoirus, il est celui qui respecte Galien, la vieille école. Alors que manifestement, Molière a compris qu'il y avait Harvey qui avait décrit la circulation et que, sans doute, c'était quelque chose de nouveau et de très intelligent.
Avec ces fameuses saignées, est-ce qu'on peut dire on saignait à tout va, professeur Fabiani?
Oui, parce que, comme je vous l'expliquais, on cherche à chasser ce qui est mauvais dans le sang. Donc, on enlève, allez, 2 ou 3 pintes de sang. Mais enfin, quand vous en avez un certain nombre comme ça depuis tous les jours, vous arrivez à un état d'anémie qui est quand même pas négligeable.
Alors, des saignées, justement, hein, des indications très, très précises, très, très pointues. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
RFI.
Et pour parler de la phlébotomie, c'est le nom savant des saignées, professeur Frédéric Galactéros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors aujourd'hui, des recours aux saignées, beaucoup plus rares qu'à cette période, professeur Galactéros, dans quelles indications précises?
Plus rare, on en fait quand même à peu près 50 000 par an en France. Et les indications sont essentiellement... les surcharges en fer, qui sont du moins accessibles aux saignées, parce qu'il faut pour ça que la personne n'ait pas par ailleurs une anémie. Et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus rares, qui ont un excès de globules rouges, qui est une polyglobulie. Et puis vous avez certains cas également de ce qu'on appelle des porphyries et des maladies génétiques qui donnent des problèmes cutanés en rapport avec l'excès de fer dans le foie. Et là aussi, les saignées permettent de réduire cet excès de fer dans le foie. Par ailleurs, chez les drépanocytaires, qui est une autre maladie génétique encore, on est amené parfois à faire des saignées pour réduire la viscosité sanguine qui est source de ralentissement et parfois même d'arrêt circulatoire dans les petits vaisseaux. Donc vous voyez, il y a quand même toute une gamme de maladies qui peuvent bénéficier et qui en bénéficient grandement.
Et dans le cas justement de la prise en charge de la drépanocytose, professeur Frédéric Galactéros, est-ce que ces saignées sont toujours suivies de transfusions?
Non, pas du tout. Il y a plusieurs sortes de drépanocytoses. Il y a des drépanocytoses qui sont non anémiques et pour lesquelles la saignée est salutaire parce qu'elle diminue fortement les problèmes de circulation du sang par hyperviscosité sanguine. Hein, le sang est trop épais, pour parler simplement, et le fait de faire des saignées le fluidifie. Et par ailleurs, effectivement, il y a les autres drépanocytoses qui sont des formes beaucoup plus graves, dans lesquelles on fait ce qu'on appelle un échange, c'est-à-dire la saignée est automatiquement suivie de transfusion, parce que sinon elle serait très mal supportée.
Est-ce que le mode de prélèvement, professeur Galactéros, est propre à chaque indication en termes de volume de sang, en termes de fréquence de ces saignées?
Oui, c'est même plus que par indication, c'est individualisé. Il est évident que pour soustraire des grandes quantités de fer accumulées dans le foie au cours de nombreuses années, il faut faire beaucoup de saignées. Donc on les rapproche, on augmente le volume dans la limite de la tolérance du patient naturellement.
Tout à l'heure, vous citiez comme contre-indication, bien évidemment, l'anémie. Est-ce qu'il y a d'autres conditions à respecter? C'est ma dernière question, professeur Frédéric Galactéros. D'autres conditions pour le patient qui est soumis à une saignée?
Bien entendu, il y a l'âge et la tolérance de la saignée elle-même. La situation cardiovasculaire est à l'évidence un paramètre très important à prendre en considération. Il y en a quelques autres, mais c'est le principal.
Merci beaucoup, professeur Frédéric Galactéros, de nous avoir donné un petit peu de votre temps pour répondre à Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil.
Priorité Santé sur RFI.
On vous retrouve, professeur Jean-Noël Fabiani, toujours pour poursuivre en votre compagnie la lecture de l'incroyable histoire de la médecine publiée aux éditions Les Arènes BD. Illustration signée Philippe Bercovici, histoire avec ses rapports de force, des interdits. Interdits religieux qui empêchent, tout à l'heure on parlait justement des séances d'anatomie qui étaient interdites jusqu'à une certaine date. Est-ce qu'on peut dire que cette interdiction, notamment de disséquer, a freiné l'avancée de la médecine?
Incontestablement, pendant tout le Moyen-Âge, dans le monde arabe aussi, on n'a pas le droit d'ouvrir un corps humain. Et donc, on ne connaît pas les organes, sinon d'une façon très vague, parce qu'on a vu chez les animaux comment ça se passait. On se doute bien, depuis Aristote, que c'est à peu près la même chose. Mais il n'empêche qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et il va falloir des hommes qui, au prix d'un courage tout à fait remarquable, apporte une véritable connaissance. Et là, ça se passe au XVIe siècle. Le premier grand anatomiste, il s'appelle André Vézal. Il est flamand, il va être professeur à Padoue, et il va demander, en arrivant comme professeur à Padoue, au podestat de Padoue, qui lui demande « Mais maître Vézal, qu'est-ce que je puis faire pour vous ?» Eh bien, il lui dit « Il me faut un cadavre par semaine ». Et il va commencer à faire des dissections et écrire un livre qui est le premier livre scientifique d'anatomie qui s'appelle La Fabrica et qui a eu deux éditions.
Avec de magnifiques illustrations.
Bien entendu, qui sont liées à Jean van Kalkar, qui est un flamand aussi, mais qui est surtout un élève du Titien. Et donc, on a quand on le lit aujourd'hui, c'est magnifique comme livre. Et l'introduction de Vézal montre un courage de l'homme tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, l'Inquisition le guette. Pourquoi est-il allé à Padoue? Parce que Padoue est protégé par Venise, et l'Inquisition ne vient pas à Padoue. Mais dès qu'il va quitter Padoue, lorsqu'il va suivre l'empereur Charles Quint d'abord, et puis Philippe II, eh bien on va trouver le moyen de le coincer. Un jour, on va lui reprocher d'avoir anatomisé un vivant, ce qui est faux, bien entendu. Il va être condamné à être brûlé vif. Alors, comme il est quand même le médecin de Philippe II, on commue, en quelque sorte, cette peine en grand pèlerinage, c'est-à-dire être obligé de partir tout de suite sur Jérusalem, et il en mourra. Et le grand Vézal est mort, abandonné sur une plage de l'île de Zante, à la suite de cette punition de l'Inquisition.
Alors, l'histoire avec un grand H, cette histoire de la médecine, ça va ensemble, avec des luttes de pouvoir, comme on vient de l'entendre, rivalité religieuse aussi, et puis les armées, les guerres, terrain d'expérimentation, professeur Fabiani.
Évidemment, notamment pour les barbiers chirurgiens, parce qu'il était bon, quand on était un chef de guerre, d'avoir, accompagnant son armée, un barbier chirurgien. C'est ainsi, par exemple, qu'un des hommes les plus connus de la Renaissance est pas autre chose qu'un barbier chirurgien. Et on va avoir des hommes qui vont accompagner les troupes et qui vont peu à peu apporter des progrès considérables dans le traitement des plaies, d'une façon générale, des blessures, bien qu'ils ne connaissent pas toujours parfaitement l'intérieur du corps. Et Ambroise Paré, par exemple, pour ne citer que lui, qui est le plus fameux de tous, eh bien, il va apporter un bénéfice considérable. Quand on fait une amputation, eh bien, avant, on était obligé de brûler le moignon avec des tisonniers portés au rouge. Vous imaginez la douleur épouvantable, il n'y a pas d'anesthésie quand même. Et là, il dit, mais non, on va pas faire ça, on va ligaturer l'artère. Alors, pour ligaturer l'artère, il va prendre quelques crins de la queue de son cheval et il va faire un nœud, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle encore aujourd'hui les fils de chirurgien des crins.
Eh ben, tout a son histoire. Alors, tout ça aussi, l'histoire, les guerres, et aussi l'évolution des pays, l'évolution des territoires, l'évolution démographique. Et quand la population augmente, professeur Fabiani, eh bien c'est le terrain, si bien des famines que des grandes épidémies.
Évidemment, pour faire une épidémie, il faut qu'il y ait des gens qui sont rassemblés. Donc le fait que la France, qui est un pays rural dans le haut Moyen-Âge, avec finalement des villages disséminés, ne sont pas tellement atteints par les épidémies, à partir du moment où les gens arrivent dans les grandes villes, souvent pour des raisons alimentaires, ils n'ont pas suffisamment à manger, ils arrivent dans les grandes villes, alors c'est le domaine de la grande truanderie, hein, quand même, faut bien voir tout ça. Et donc, ils sont là, il y a des épidémies, et puis il y a surtout la nécessité de les mettre quelque part, tous ces gens qui font de la mendicité dans les villes. Et c'est là qu'on crée évidemment des hôpitaux généraux. Alors à Paris, eh bien, on crée l'hôpital de Bicêtre, hein, qui est presque une prison, hein, où on met tous les soirs, les archers des pauvres passent, les prennent pour les mettre à l'hôpital Bicêtre, ou bien les prostituées, qu'on met à Salpêtrière, qui est l'autre grand hôpital général pour les femmes à Paris. Pour les militaires, Louis XIV crée les Invalides. Parce qu'il veut pas que les militaires qui ont été amputés exhibent leurs moignons dans les rues de Paris en faisant la mendicité, parce que tout de même, ce n'est pas bon pour les futures vocations de soldats.
Et les impératifs hygiénistes, là, on isole les miséreux, on l'a bien compris. Professeur Fabiani, on ne peut pas parler de cette histoire de la médecine, et pas simplement quand on est français, sans mettre en avant un nom. Ce nom, c'est évidemment celui de Louis Pasteur.
Alors Louis Pasteur, c'est... Bien sûr, on est au 19e siècle, là. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis l'époque des archers des pauvres. Louis Pasteur, il faut bien voir d'abord que Louis Pasteur est un génie absolu. Il va pas inventer la microbiologie. C'est pas lui qui découvre les microbes, c'est Koch, l'Allemand. Ils ne peuvent pas se voir. N'oubliez pas qu'entre Koch et Pasteur, il y a l'Alsace et la Lorraine. Nous sommes à une époque où, quand même, entre les Français et les Allemands, on ne se parle pas, on ne se lit pas.
Il y a une rivalité, mais il y a aussi une émulation.
Émulation ou compétition, peu importe. Mais en tout cas, et là, le destin va habiller Pasteur d'une découverte extraordinaire qui est la vaccination. Il ne découvre pas les microbes, mais il va redécouvrir la vaccination qu'avait inventé Jenner un siècle avant.
Pour la variole.
Pour la variole. Mais ce pauvre Jenner, il ne savait pas ce que c'était qu'un microbe, évidemment, il ne connaissait rien de l'immunologie. Lui, c'était un observateur, un médecin, praticien, un observateur. Pasteur, c'est pas un médecin. C'est un chimiste, faut pas l'oublier. Mais il va, grâce à Chamberlain, qui est son assistant, et qui avait été chargé d'inoculer le choléra des poules aux poules. Mais il a oublié de le faire. Et il rentre de vacances. Au bout d'une semaine de vacances, il dit, oh, j'ai oublié, le patron va m'engueuler. Oh là là, il faut absolument que je prenne ces choléras des poules et que je les injecte aux poules. Il l'injecte aux poules. Et là, alors qu'elle devait mourir, elle ne meurt pas. Et donc, il va voir le patron, il dit, patron, faut que je vous dise ce qui s'est passé, c'est de ma faute, j'ai pas injecté, j'avais laissé le choléra, les microbes du choléra sur la paillasse, puis je l'ai fait seulement à mon retour de vacances. Et là, Pasteur a l'idée de génie, il dit, et si le fait d'avoir laissé les microbes pendant cette semaine sur le, simplement, ils étaient affaiblis, ces microbes, et si finalement, ces poules, eh bien, elles ne peuvent plus être malades. Alors là, l'autre idée de génie, s'il reprend des vrais microbes très très actifs, il l'injecte et les poules ne meurent pas. Elles ne meurent pas parce qu'elles sont immunisées. Ça, c'est le départ de la vaccination. Et ça va être une déclinaison sur toutes les maladies. Et là, véritablement, Pasteur est un très grand génie.
Alors, microbes désinfectés, asepsie, illustration concrète de ce préalable minutieux lors des soins. Enfin, on désinfecte partout, hein, pas simplement pour soigner, aussi dans la maison. On retrouve en ligne Delphine Soubès, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes infirmière en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors déjà, cette asepsie, ce sont des règles de base pour ceux qui soignent et pour tous ceux qui soignent.
Oui, exactement, oui. Effectivement, l'asepsie, c'est une mesure préventive pour en fait s'opposer aux infections. Et donc, ça, c'est un moyen pour tout le monde que les microbes ne rentrent pas dans notre organisme. Et le premier moyen qu'on a en tant que personne, c'est le lavage des mains. Et donc, il y a une façon de se laver les mains qui est importante, déjà avec de l'eau propre, avec du savon ou de la solution hydroalcoolique, de manière bien efficace, en moussant bien et en séchant avec un linge propre. Ça, je pense que c'est la base pour tout le monde, pour toute personne, pour tout enfant qui se lave les mains et qui ne veut pas se faire contaminer par des microbes.
Alors, il y a les règles de base que vous venez d'énoncer et il y a bien sûr, en milieu médical, des règles spéciales en fonction des activités pour des soins simples ou alors quand on va dans des chambres des patients, voire même au bloc opératoire.
Oui, effectivement. au bloc opératoire. On fait soit le lavage des mains avec la solution hydroalcoolique et ça dure une minute, soit un lavage d'abord des mains et après avec la solution hydroalcoolique où ça dure une et après trois minutes. C'est très efficace et on remarque qu'à l'hôpital, il y a des études, des moyens qui sont faits, ce qu'on appelle la certification et l'accréditation, où on voit qu'il y a beaucoup moins d'infections nosocomiales, donc d'infections que l'on a à l'hôpital.
Est-ce voilà. qu'on a conscience de tous ces impératifs d'hygiène dès le début, hein, quand on commence ces études d'infirmière? Est-ce que ça fait partie intégrante, Delphine Soubès, de la formation?
Alors, effectivement, en première année, on nous apprend à bien se laver les mains, on a des formations. Nous, quand on rentre dans une chambre avant de rentrer, ou quand on rentre, on se lave les mains. Quand on en sort, on se lave les mains. Et si on fait différents soins dans une chambre, on se relave les mains.
Le message est bien passé. Hein. On va tous y passer après au lavabo.
Exactement.
Delphine Soubès, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes infirmière en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Dans votre service, hein, professeur Jean-Noël Fabiani, être soigné dans de bonnes conditions, c'est aussi être soigné sans souffrir. Le ressenti, c'est essentiel. 1853, là aussi je l'ai appris, je ne le savais pas avant. Jon Snow effectue le premier accouchement sous anesthésie. Et la jeune maman s'appelle Victoria, la reine Victoria.
Absolument. En fait, il utilise une technique qui a été mise au point par un Écossais qui s'appelle James Simpson et qui a découvert les propriétés du chloroforme. Et Jon Snow, qui va après être quelqu'un très connu pour l'histoire du choléra, eh bien décide de proposer à la reine Victoria, qu'on est quand même à son septième enfant, donc lors de son accouchement, lui propose de lui donner cette anesthésique. Alors pourquoi c'est très important? Eh bien parce que ça va très bien se passer. Et la reine Victoria, elle va dire, c'est formidable ce que m'a donné ce docteur, tout s'est passé magnifiquement. C'est important parce que la reine Victoria, elle est la reine d'Angleterre, elle est l'impératrice des Indes, mais elle est aussi la chef religieuse de l'église anglicane. Or, il était écrit, tu accoucheras dans la
douleur.
Et le fait que la reine, chef de l'église, eh bien, ait accouché sans douleur, va libérer dans le monde anglo-saxon la possibilité de faire une anesthésie pour avoir un accouchement sans douleur.
Alors voilà encore le rôle de la morale.
Absolument. Et en France, ça se passera beaucoup plus tard. Il faudra attendre les années 1950 pour que on puisse enfin, de façon régulière, accoucher sans douleur.
Avec les fameuses méthodes qui avaient été à l'époque importées d'Union soviétique.
Absolument. C'est le Parti communiste qui a proposé la loi, d'ailleurs, au Parlement français.
À la fameuse maternité des bleuets.
Les bleuets, les métallos. La maternité des métallos.
Alors, méthodes qui vont considérablement évoluer en matière d'anesthésie, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en médecine, spécialiste en anesthésie et réanimation à Toulouse. Alors aujourd'hui, on associe l'anesthésie et la réanimation, mais jusqu'à quelle époque, docteur Jean-Jacques Charbonnier, est-ce que l'on endormait sans avoir les moyens de réveiller?
Ben, on a l'impression que, en fait, l'anesthésie a existé il y a très longtemps, puisque même à l'époque de l'Antiquité, on retrouve des traces d'opérations avec des agents anesthésiques, des sédatifs comme l'opium, la ciguë, la belladone, mais c'était vraiment très sommaire tout ça, et évidemment, on le faisait pour des séances d'énucléation ou d'amputation. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge, où il y a eu des éponges somnifères à base d'opium, de ciguë et de mandragore et de soporifique. Et puis on réveillait les patients quand on pouvait avec des éponges qui étaient imbibées de vinaigre. Et puis après, donc ça a été le protoxyde d'azote au XVIIIe siècle. Et puis comme l'a rappelé le professeur, évidemment après il y a eu le chloroforme, il y a eu tout ça. Donc là on était déjà dans les années 1847 et 1850. Hein, c'est l'obstétrique qui devient quelque chose qui peut être soulagé au niveau de l'accouchement. Et comme le disait l'invité, évidemment, c'était mal vécu et mal vu par les autorités catholiques. Et puis ensuite, il y a eu en 1850 les seringues à base de morphine, et puis l'introduction après, mais un peu plus tard après, du pain total, des drogues, des morphiniques, etc. Mais l'anesthésie est une spécialité qui est relativement jeune au point de vue médical, puisque c'est simplement dans les années 60 où on a eu des médecins qui se sont intéressés à cette discipline, et l'anesthésie est une discipline jeune au niveau médical.
Parce que c'est lié étroitement à la tolérance aussi qu'avait la société de cette fameuse notion de douleur, docteur Charbonnier.
Oui, de douleur et puis de faisabilité aussi au niveau chirurgical. Parce que la première greffe cardiaque en 1967 par le professeur Bernard, c'est aussi, et peut-être même surtout, grâce au progrès de la réanimation et de l'anesthésie qu'on a pu la pratiquer. Donc vous voyez, c'est vraiment une discipline très 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 nouvelle au niveau médical. Et toutes ces prouesses chirurgicales qui sont possibles actuellement sont aussi faites grâce au progrès de la réanimation et au progrès de l'anesthésie, de la pharmacopée et surtout, bien sûr, surtout de la surveillance des anesthésies puisque il n'y a pas si longtemps que ça, on disait les personnes mouraient pendant les opérations, on disait c'est le choc opératoire, il n'a pas supporté l'anesthésie, alors qu'actuellement, c'est tout à fait rassurant, il faut rassurer les auditeurs en disant qu'il y a environ 30 à 40 000 anesthésies par jour en France, quand même, c'est considérable, et lorsqu'il y a un problème d'anesthésie, on en parle à la télévision, c'est dire quand même que c'est sécurisé, l'anesthésie n'a jamais été aussi sécurisée que maintenant, et finalement, si vous faites un problème médical quelconque, il vaut mieux le faire pendant une opération que tout seul dans votre salle de bain, parce que là, vous avez à côté de vous un spécialiste, un anesthésiste réanimateur, vous avez tous les moyens de surveillance, et on peut être rassurant par rapport à cette discipline.
Curare, chloroforme, on connaît ces noms, notamment dans les romans policiers, dans la littérature. Est-ce que ces produits historiques sont toujours employés aujourd'hui ?
Alors, il y a un produit qui est très ancien, qui a été utilisé dès le XVIIIe siècle comme le protoxyde d'azote, qui était donc intéressant parce que c'était un gaz hilarant. Et même, on s'en servait non seulement pour pratiquer des anesthésies, mais pour jouer en société. On se faisait rire avec ce gaz hilarant. Eh bien, on utilise toujours dans les blocs opératoires le protoxyde d'azote, par exemple. Et puis ensuite, toutes les drogues telles que les barbituriques, le pain total, que certains patients appelaient à l'époque le pain complet, parce que avec ce jeu de mots, ils ne comprenaient pas trop la signification. Et là, on ne l'utilise plus, mais disons qu'aujourd'hui, on a des produits comme le Propofol, qui est l'ancêtre du pain total, et qui est un narcotique. Parce qu'il faut dire que dans l'anesthésie générale, il y a trois classe de médicaments, il y a un produit qui fait dormir qu'on appelle le narcotique, donc comme le pentotal, le diprivan. Il y a un autre produit qu'on utilise, parce qu'il suffit pas de dormir, on peut avoir mal, qui est un analgésique et qui est un morphinique. Et puis il y a une troisième classe de médicaments que l'on emploie lorsqu'il faut que les muscles soient au repos et paralysés pour la chirurgie, qui est un curare. Donc c'est la combinaison de ces trois produits qui fait ce qu'on appelle une anesthésie générale balancée, mais quelquefois on se sert que du narcotique, par exemple pour des actes d'endoscopie, on se sert que du narcotique, on se sert que du diprivan, Propofol. Donc c'est en jouant sur ces trois classes de produits, bien sûr il y en a beaucoup, en fonction du terrain, en fonction de la pathologie, en fonction de l'opération, on va jouer sur ces trois produits pour faire des anesthésies générales. Et puis il y a aussi tout le panel d'anesthésies locorégionales maintenant qui sont bien développées grâce notamment au progrès de l'échographie, de la formation des anesthésistes à utiliser tous ces produits et toutes ces techniques.
Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Charbonnier, spécialiste en anesthésie en réanimation à Toulouse. On peut citer cet ouvrage que vous avez signé, intitulé « 7 choses » publié aux éditions First. On vous retrouve, professeur Jean-Noël Fabiani. On a cité tout à l'heure Jon Snow, anesthésiste de la reine Victoria, mais on ne peut pas le réduire à cela, parce qu'il a fait quelque chose de très important pour la médecine. C'est le recensement des cas d'une maladie, le choléra. On peut dire qu'il est l'inventeur de l'épidémiologie.
Absolument. Il y a eu une très grave épidémie de choléra à Londres, comme il y en a eu une à Paris à peu près à la même époque. Et tout le monde pensait que c'était lié aux miasmes. Les miasmes, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on inhale. Et lui, il dit « Non, 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 ça doit sûrement pas être ça ». Et lui, il pensait que c'était l'eau. Et à l'époque, à Londres, on allait chercher son eau à une fontaine qui était dans une rue. Et l'épidémie naît et il se met à noter sur une carte tous les gens qui sont morts de cette épidémie. Et il s'aperçoit que tous ceux qui sont morts de cette épidémie, sur la carte, allaient prendre obligatoirement leur eau au niveau d'une pompe bien particulière de Londres. Et il dit, regardez, c'est donc cette pompe qui est responsable, ça n'est pas l'air, et il fait interdire la pompe, et l'épidémie de choléra s'arrête.
Médecin enquêteur.
Oui, il crée l'épidémiologie parce que, en effet, il est le premier à avoir l'idée d'utiliser des moyens comme topographiques pour être capable de donner la localisation de la source de la maladie.
Alors, difficile de passer en revue tous ces chapitres, tous ces domaines qui nous conduisent jusqu'aux plus récentes épidémies, infections émergentes, les dernières avancées de la recherche, va-et-vient entre précurseurs et applications. On va voir justement du côté du continent africain comment la médecine d'aujourd'hui a été influencée par l'héritage historique. Retrouve en ligne, professeur Abdoul Kahn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de cardiologie à l'université de Dakar, directeur de la polyclinique de l'université de Dakar, chef du service de cardiologie de l'hôpital d'Al Hajjam. Alors tout d'abord, est-ce qu'il existe, professeur Kahn, des recueils d'histoire de la médecine africaine ?
Des recueils, sûrement oui. Il y a beaucoup de travaux et beaucoup de traités qui concernent d'abord et surtout la médecine durant l'ère coloniale. C'est notamment l'œuvre de beaucoup de nos historiens qui travaillent beaucoup sur la question. Mais il y a aussi des traités qui parlent de la médecine africaine durant l'ère précoloniale. Donc il y a bien entendu une riche littérature concernant la médecine, aussi bien avant la colonisation que durant l'ère coloniale.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous citer des apports justement antérieure à cette période de la colonisation, des apports africains qui sont spécifiques à ce que l'on connaît aujourd'hui dans la médecine que l'on jugerait moderne?
Il est bien entendu connu que l'Afrique est un des berceaux de l'humanité et par conséquent, la médecine africaine a réellement laissé son empreinte sur la médecine mondiale. Il est vrai aussi que ceci est peut-être moins bien connu. D'abord parce que souvent c'est la tradition orale qui porte ces savoirs. Ensuite parce qu'il faut bien le noter, il y a eu un déni, voire une répression de cette médecine précoloniale africaine. Toutefois, il y a plusieurs sources qui nous montrent qu'un certain nombre de pratiques ont déjà existé durant l'Afrique précoloniale. On sait par exemple que l'inoculation antivariolique a été pratiquée au Soudan bien avant la colonisation et bien avant qu'on invente ce que nous appelons aujourd'hui la vaccination. On sait également que l'utilisation de breuvages pour lutter contre les infections à base d'antibiotiques, en l'occurrence la tétracycline par exemple, était une pratique courante 2000 ans avant notre ère. Et il s'agit bien entendu là aussi d'une réalité et d'une pratique qui a été courante en Afrique. Je parle donc d'une découverte qui précède de loin celle d'Alexander Fleming de la pénicilline. La chirurgie, par exemple, est une réalité de l'Afrique précoloniale et on a beaucoup de traités d'ailleurs qui montrent que la prothèse a pu exister après amputation de membres, par exemple. Et d'ailleurs, lorsqu'on connaît la réalité africaine aujourd'hui, on sait qu'il y a un savoir africain sur la traumatologie, sur l'orthopédie et qui continue à exister parallèlement à la médecine dite conventionnelle. Enfin, on sait que les plantes médicinales constituent un des socles de la médecine universelle et l'Afrique, bien entendu, a longtemps et continue d'ailleurs d'être un des piliers de cette médecine à base de plantes à cause notamment de la richesse à la fois du terroir africain, mais aussi du savoir qui a été développé autour de ces plantes médicinales.
Alors, pharmacopée, des pratiques très anciennes, mais à l'inverse, professeur Abdoul Kahn, est-ce qu'on peut dire que certaines croyances continuent de se heurter à des découvertes éprouvées aujourd'hui dans la médecine moderne? Est-ce qu'on continue à faire des choses qui sont par contre en contradiction avec les savoirs que l'on a aujourd'hui?
Oui, clairement. Je pense que l'un des torts peut-être des Africains, c'est d'avoir opposé la médecine conventionnelle à la médecine traditionnelle. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons ces deux types de médecine qui auraient dû être complémentaires, qui se regardent un peu en chaîne faïence. On sait très bien que la majorité des Africains continuent à avoir recours à la médecine traditionnelle. Cette médecine traditionnelle n'est pas toujours aussi évoluée qu'on le voudrait. C'est d'ailleurs le cas parfois de la médecine dite conventionnelle. Et bien entendu, nous avons un certain nombre de pratiques traditionnelles qui ne sont pas clairement évaluées, dont l'utilité peut être discutée et qui parfois même pourraient être délétères. Et je pense que c'est simplement parce que nous n'arrivons pas encore à créer cette symbiose, cette harmonie, cette évaluation de ces deux types de médecine et voir dans quelle mesure elles peuvent être complémentaires. Je crois qu'on les oppose un peu trop et je pense que les Africains doivent s'approprier ces savoirs anciens, doivent en faire le bilan, voir ce qui peut être bien, laisser ce qui ne l'est pas. Et je crois que les deux ne devraient pas s'opposer. Malheureusement, c'est le cas. Et les deux, d'ailleurs, ne sont pas aussi bien évolués. Et je pense que c'est peut-être cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal en Afrique à avoir aussi bien une médecine conventionnelle qu'une médecine traditionnelle qui serve réellement à la communauté de la manière la plus optimale.
Merci beaucoup pour votre éclairage, professeur Abdoul Khan. On peut citer le titre de l'ouvrage que vous avez signé, « Si l'école africaine de médecine m'était comptée ». Merci et très bonne journée à Dakar.
Merci, au revoir.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur Jean-Noël Fabiani, l'histoire, ça va très vite. On n'a plus beaucoup de temps, on aborde la conclusion de notre échange. Alors, on est parti des réductions de fractures, des trépanations sans vraiment précaution de la préhistoire. On arrive en fin d'ouvrage, les avancées de la cardiologie, c'est précisément votre spécialité, notamment la circulation extracorporelle. De quoi s'agit-il, professeur Fabiani ?
Il fallait pouvoir arrêter le cœur. Et donc, pour arrêter le cœur, il fallait pouvoir le remplacer. Donc, il fallait créer non seulement un cœur pour le remplacer, mais un poumon, puisqu'on excluait ce qu'on appelle la petite circulation. Et ça a été un travail absolument extraordinaire qui a été mené par un couple qui s'appelait les Gibbon pendant la guerre pour essayer de trouver cette solution. Et puis il y a eu de très nombreuses améliorations où finalement les Américains ont été là pour le coup les moteurs de cette recherche.
Alors il y a les greffes bien sûr, les stents, on ne peut pas tout citer.
Non.
Et du barbichirurgien finalement on est arrivé au robot chirurgien. C'est presque de la science-fiction, on n'est plus dans l'histoire. Professeur Jean Noël Fabiani, vous en pensez
non,
quoi?
Ça fait déjà 20 ans qu'on utilise le robot chirurgien dans mon service. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? Eh bien, c'est pas autre chose qu'un ordinateur entre le chirurgien et le patient. Autrement dit, imaginons, allez, pour être simple, un geste, le chirurgien se met à trembler. Eh bien, immédiatement, l'ordinateur, lui, va faire un geste absolument parfait. Et ça permet de faire des chirurgies compliquées, comme traiter un anévrisme, par exemple, par trois petits trous, simplement, avec des suites qui sont quand même beaucoup plus simples.
Alors, si hier, professeur Jean-Noël Fabiani, les textes sacrés réglementaient les pratiques, aujourd'hui, on va dire que c'est l'éthique qui impose certaines limites face aux possibilités offertes, notamment par la technique. Est-ce que cette technique, des fois, elle ne se heurte pas au célèbre serment d'Hippocrate? On va boucler la boucle.
Alors, soyons clairs, les possibilités de la médecine moderne posent des problèmes qui sont pas seulement des problèmes aux médecins, parce que le serment d'Hippocrate, lui, le médecin, il fait toujours tout pour son patient.
À la société,
mais à la
en
société.
Général.
Mais c'est à la société qu'il pose des problèmes. Les procréations médicalement assistées, la GPA, la possibilité de prendre des cellules embryonnaires pour faire des clones, est-ce que tout cela est possible? Est-ce que les religions continuent à être très présentes dans le monde où nous sommes? Il y a encore beaucoup de femmes sur Terre qui ont des excisions, par exemple. Il y a un certain nombre de questions qui se posent, y compris la récente actualité d'une modification du génome humain, soi-disant pour faire du bien, puisque c'est pour lutter contre le sida. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on commence à toucher le génome humain? Donc, ce sont des questions qui sont des questions de société. La science, elle n'a pas de morale. Elle continue à avancer de son train. Ça sera les sociétés qui auront à prendre position, et pas seulement les médecins. La société elle-même a des décisions à prendre.
Parce que l'histoire de la médecine, c'est aussi une histoire humaine.
Évidemment, ça n'est qu'une petite sœur de la grande histoire avec un grand H.
Merci beaucoup, professeur Jean-Noël Fabiani, pour ce voyage dans le temps avec votre incroyable histoire de la médecine publiée aux éditions Les Arènes BD, illustration signée Philippe Bercovici. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes chef de service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, également professeur à l'université Paris-Descartes. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des maladies de la thyroïde. Si vous voulez témoigner, bien sûr, si vous avez des questions, notre page Facebook et notre numéro 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.